Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI à midi temps universel, 14h ici à Paris. Bienvenue pour ce tour du monde à la mi-journée. Bonjour.
Charlotte Idrac.
Un bon signe, mais pas suffisant. Réaction de Kiev et ses alliés après la contre-proposition de Vladimir Poutine. Le président russe se dit prêt à des négociations directes avec l'Ukraine dès jeudi en Turquie, mais n'évoque pas de cessez-le-feu préalable. Une paix juste et durable en Ukraine et aussi un cessez-le-feu à Gaza. Appel de Léon XIV pour sa première prière dominicale, place Saint-Pierre. Le nouveau pape demande aux grands de ce monde d'arrêter la guerre. Soulagement prudent des populations en Inde et au Pakistan après l'annonce d'une trêve, ça tient globalement malgré des incidents.
RFI Midi.
À suivre aussi la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Deuxième jour de tractation en Suisse. Faut-il être optimiste? On fera le point avec notre invité. Et puis, pas le droit à l'erreur pour le Real Madrid face au Barça cet après-midi. Un classico et l'occasion pour l'équipe de Kylian Mbappé de sauver une saison, disons, un peu terne. Un premier mouvement, mais pas suffisant, et une manière pour Moscou de gagner du temps. Réaction d'Emmanuel Macron à la proposition de Vladimir Poutine. Le président russe a dit souhaiter des négociations directes avec l'Ukraine dès le 15 mai en Turquie. D'ailleurs, le président turc Erdogan confirme qu'il est prêt à accueillir des négociations de paix. Mais Vladimir Poutine n'a pas évoqué le cessez-le-feu sans condition exigé par Kiev et ses alliés européens à partir de demain. Alors à Kiev, les habitants restent très prudent. Reportage Emmanuel Chaz.
C'est un dimanche comme un autre ici à Kiev. Il est ponctué d'alertes aériennes annonçant le danger d'une frappe russe éventuelle. Cette nuit, des explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne alors que la Russie lançait une centaine de drones contre l'ensemble du pays. Difficile donc de croire à une paix prochaine, mais Igor, un fonctionnaire d'une cinquantaine d'années, voit la proposition de pourparlers directs avancée par Vladimir Poutine comme une bonne nouvelle.
Cette guerre insignifiante aurait dû être stoppée il y a longtemps, en 1922. Elle aurait pu l'être. Et la perte de tant de personnes, des amis chers, je ne pense pas que c'est une bonne chose.
Tetiana, une interprète à Kiev, partie se réfugier à l'étranger au début de l'invasion et revenue depuis 2 ans, voit les choses différemment.
Nous avons beaucoup de méfiance de ce côté-là. Toutes ces propositions suscitent beaucoup de doutes. Et je n'ai aucune confiance, aucune foi que tout arrive comme ils le disent.
Tetiana traduit là le sentiment d'une majorité d'Ukrainiens habitués à ce que la Russie viole les cessez-le-feu et traités pourtant signés et ou annoncés par Moscou. Quelques heures après les déclarations de Vladimir Poutine, le bras de fer continue donc sur le terrain avec les combats et sur le plan diplomatique avec la proposition du bloc occidental d'un cessez-le-feu inconditionnel que Moscou continue de refuser. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La guerre en Ukraine évoquée par le nouveau pape pour sa première prière hebdomadaire au balcon de la basilique Saint-Pierre tout à l'heure. Ce rendez-vous dominical, c'est souvent l'occasion pour le pape de s'exprimer sur les grands sujets d'actualité internationale. Et bien là, Léon XIV a tout de suite donné le ton devant une foule de fidèles et curieux. Reportage Eric Sénanque.
Devant une marée de drapeaux de tout pays, le nouveau pape n'a pas manqué de faire résonner sur la place Saint-Pierre un vibrant appel à mettre fin au conflit qui déchire la planète.
Nell'odierno scenario drammatico di una...
Frères et sœurs, l'immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est achevée il y a 80 ans, le 8 mai, après avoir fait 60 millions de victimes. Dans le scénario dramatique actuel d'une Troisième Guerre mondiale par morceaux, comme le pape François l'a dit à plusieurs reprises, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde en répétant l'appel toujours d'actualité, jamais plus la guerre.
Mai più la guerra.
Jamais plus la guerre, une expression que son prédécesseur Paul VI avait utilisée il y a 60 ans à la tribune de l'ONU. Le nouveau pape a souhaité une paix juste et durable en Ukraine et qu'en particulier les enfants ukrainiens enlevés par les Russes puissent retrouver leur famille. Mais c'est aussi vers le Proche-Orient que Léon XIV a tourné son regard.
Je suis profondément attristé par ce qui se passe dans la bande de Gaza. Que les tirs cessent immédiatement, qu'une aide humanitaire soit apportée à la population civile épuisée et que tous les otages soient libérés.
Le pape s'est néanmoins félicité de l'accord de cessez-le-feu trouvé récemment entre l'Inde et le Pakistan, mais appelé à ce qu'une solution durable soit trouvée entre les deux voisins. Des appels dans la lignée de ses prédécesseurs, très applaudis par les fidèles, et qui confirment que Léon XIV fera de la paix l'un des marqueurs de son pontificat. Éric Sénanque, Rome. RFI.
Éric Sénanque l'évoquait à l'instant. Léon XIV a salué donc le cessez-le-feu annoncé par l'Inde et le Pakistan. Globalement, ça tient, malgré des incidents la nuit dernière à la frontière. New Delhi et Islamabad se sont rejetés la responsabilité des accrochages. Le président américain Donald Trump, en tout cas, s'est dit très fier de la cessation des hostilités. Les États-Unis se sont impliqués dans les discussions entre les deux voisins, mais à quel point ? Bonjour Harim Lippold.
Bonjour Charlotte, bonjour. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on sait en fait du rôle de Washington dans ce dossier ?
Alors d'abord, Donald Trump, effectivement, lui-même a annoncé triomphalement hier la conclusion de ce cessez-le-feu fragile. Le Pakistan, d'ailleurs, a remercié la Maison-Blanche pour son implication dans les discussions. Côté indien, on a tenu à présenter cet accord comme le fruit d'un dialogue strictement bilatéral. Il faut dire, Charlotte, que jeudi encore, le vice-président américain, J.D. Vance, affirmait que ce conflit entre deux puissances nucléaires n'était pas une affaire américaine. Mais l'attaque d'une base militaire pakistanaise à Rawalpindi, tout près du commandement nucléaire, a fait changer la position de Washington. Dès vendredi, le vice-président et le secrétaire d'État Marco Rubio ont décroché leur téléphone, objectif convaincre New Delhi et Islamabad de discuter et vite pour éviter l'escalade. La presse américaine affirme que la Maison-Blanche craignait que le conflit devienne incontrôlable. Si les États-Unis mettent en avant le rôle de médiateur, rien ne dit que le cessez-le-feu va tenir. Donald Trump, lui, en tout cas, veut y croire. Il a déjà annoncé son intention de renforcer les échanges commerciaux avec les deux pays, tout en promettant, pourquoi pas, une solution pour le Cachemire, cette région au cœur du conflit entre l'Inde et le Pakistan.
Harim Lippold, les États-Unis qui ont repris par ailleurs leur pourparlers sur le dossier nucléaire iranien ce dimanche. Nouveau cycle de discussion. C'est le quatrième à Oman. Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que le droit de Téhéran à l'enrichissement d'uranium était non négociable. Côté américain, l'émissaire Steve Witkoff demande justement le démantèlement des installations d'enrichissement en Iran. Un doigt marqué à l'encre bleue indélébile pour les votants en Albanie. Législative en cours ce dimanche, un scrutin test pour l'avenir européen du pays. Élection en forme de duel entre d'un côté le premier ministre socialiste Edi Rama en lice pour un quatrième mandat, de l'autre l'ancien dirigeant de droite et chef de file de l'opposition Salih Berisha. Trop de détenus dans les prisons en France selon un récent rapport commandé par l'ancien garde des Sceaux Didier Migaud. La surpopulation carcérale est hors de contrôle, je cite. Alors face à cela, des professionnels du secteur, magistrats, directeurs de prison ou avocats, recommande des réductions de peine exceptionnelles, Sylvie Coffi.
Le gouvernement parle d'état d'urgence dans les prisons françaises. Le nombre de prisonniers a franchi un nouveau record et dépasse les 80 000 prisonniers pour 62 000 places. Alors, que faire ? Face à l'urgence, l'ancien garde des Sceaux, Didier Migaud, avait déjà réfléchi à la question. Il proposait de réhabiliter et de construire encore plus de lieux de détention, mais cela prend beaucoup de temps. Alors, en novembre dernier, il a demandé à plusieurs professionnels du secteur de plancher sur le sujet. Résultat, il recommande que le législateur détermine une réduction de peine à titre exceptionnel, sous réserve des exclusions. Par exemple, certains prisonniers condamnés pour violence conjugale, crime ou terrorisme seraient exclus de ce dispositif. Ce mécanisme de régulation n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il a déjà fait ses preuves pendant le confinement lors du Covid en 2020. Il avait permis de repasser pour la première fois en 20 ans sous la barre des 100% d'occupation dans les prisons.
Sylvie Coffi, comble du kitsch pour les uns, glamour pour les autres. Le concours Eurovision de la chanson s'ouvre là ce dimanche à Bâle en Suisse. La France est représentée par la chanteuse Louane. Parmi les grands favoris, il y a la Suède et le groupe Cage avec son titre Bara Bada Bastu. Cela veut dire « Allons simplement au sauna ».
Slår. Nu är det dags, all bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ, fyra veckor i träpanel.
Voilà, c'était un petit aperçu, les 14h10 à Bâle comme à Madrid. Bonjour Christophe Diramzian.
Bonjour Charlotte.
C'est une journée importante dans la course au titre en Liga espagnole de foot avec un nouveau classico FC Barcelone-Real Madrid à l'occasion de la 35e journée.
Quatrième classico déjà de la saison entre un leader catalan en route pour un triplé national mais peut-être atteint mentalement par son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Et un Real en retard de 4 longueurs et qui n'a plus que le championnat pour soulever d'autres trophées cette saison que la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Quelle que soit l'issue, ça sent quand même déjà le roussi pour Carlo Ancelotti. Le nom de Xabi Alonso, en partance du Bayer Leverkusen, est déjà prononcé pour le remplacer la saison prochaine. Mais pour l'entraîneur italien, le moment de la séparation n'est pas encore venu.
La luna de miel comme entraîneur.
Ma lune de miel avec le Real en tant qu'entraîneur est finie? Je ne sais pas. Je pense au contraire qu'elle se poursuit. C'est comme dans toute relation amoureuse. Il y a beaucoup de passion au début, mais quand ça se termine, plein de facteurs vous affectent. Ma lune de miel avec le Real durera jusqu'au dernier jour de ma vie. Xavi Alonso pour me remplacer? J'ai lu qu'il quitte le Bayern Leverkusen. Il y a fait un travail formidable. Toutes les portes sont ouvertes car il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs entraîneurs au monde.
Carlo Ancelotti a déjà expliqué qu'il ne parlera pas de son avenir avant le 25 mai, mais sa réflexion se nourrira sans doute du résultat de ce classico qui démarre à 14h15 temps universel.
16h15 local. En Ligue 1, Marseille et Monaco seront bien en Ligue des Champions la saison prochaine.
Oui, les deux clubs complètent le plateau des qualifiés directs derrière le PSG. L'OM a confirmé sa place en allant gagner au Havre 3-1 à l'issue d'un match interrompu pendant une demi-heure en raison d'incidents en tribune. Le club va réintégrer l'élite continentale 3 ans après l'avoir quitté, 1 an après une décevante 8e place en championnat. Il y a la grande satisfaction du directeur sportif Mehdi Benatia.
Je suis content aujourd'hui pour les joueurs parce que je sais que même pour eux, c'est pas. On est souvent les premiers à leur taper dessus quand les résultats sont pas bons, mais on a toujours dit qu'on avait un groupe de mecs en or et c'est la vérité. Même si on a perdu des matchs qu'on devait pas perdre, il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe. Il y a une mentalité, je l'ai dit depuis le début, qui est totalement différente de l'année dernière. Maintenant, voilà, il y a eu des matchs où on est passé à côté. C'est ce qu'il faut corriger. Quand tu aspires à devenir une grande équipe, tu dois avoir une certaine régularité que parfois on n'a pas eu. On va travailler là-dessus. Mais voilà, je suis content pour le staff, je suis content pour le coach qui a aussi beaucoup souffert. Et je pense que tout le monde mérite cette qualification.
Mehdi Benatia avec Radio France, les Monégasques ont assuré la 3e place en ruinant 99% des chances de Lyon de les rejoindre en Ligue des Champions. Victoire de la Principauté 2-0. La 4e place, synonyme de tour préliminaire, reste pour l'instant à Nice, pourtant battue à Rennes 2-0. Et puis en bas de tableau, Saint-Etienne, 17e, garde espoir de se maintenir après sa victoire à Reims 2-0 également. Un détour par la Première Ligue, 34e journée, avec un duel au sommet. Le champion Liverpool accueille son dauphin Arsenal, 15h30 TU.
En boxe, Souleymane Sissoko peut désormais rêver d'un titre mondial.
Et oui, puisque le Français a gagné le droit de mettre un jour la ceinture WBC des poids welter. Hier soir, il a remporté à l'unanimité des juges son combat de demi-finale à Malabo contre le Lituanien Kavalauskas et devient donc le challenger officiel de l'Américain Mario Barrios. Souleymane Sissoko, heureux lorsqu'il s'est confié à Sofiane Amazian.
Je suis très content de cette victoire face à un très bon boxeur, un boxeur vaillant, un boxeur puissant. Il fallait faire preuve vraiment de résilience. J'ai été mis 2 fois au tapis. Il fallait aller la chercher cette victoire. Comme on dit, une demi-finale, ça se gagne. Et vraiment, je suis allé au trip, donc je suis très content. Le combat, il a vraiment tenu toutes ses promesses. Il faut être 2 pour faire un beau combat. Et maintenant, voilà, je suis content parce que le prochain combat, c'est pour la ceinture mondiale. C'est quelque chose d'exceptionnel et j'ai hâte.
En revanche, pas de premier sacre mondial en MMA pour Manon Fiorot en moins de 57 kilos à l'UFC. La Française a été dominée à Montréal par la tenante du titre, la Kirghize Valentina Shevchenko.
Christophe Diremzian à suivre Mondial Sport tout à l'heure avec Hugo Moissonnier, 16h10, temps universel. Deuxième jour de tractation ce dimanche entre les États-Unis et la Chine pour tenter de résoudre la guerre commerciale. Ça se passe en Suisse, rencontre de très haut niveau. La Chine particulièrement visée par les droits de douane américains avec des taxes astronomiques de 145%. Donald Trump sur son réseau social s'est dit optimiste avec 3 points d'exclamation. Bonjour Benjamin Burbaumer. Vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po Bordeaux et spécialiste de l'économie politique internationale. Est-ce qu'il y a de quoi être optimiste selon vous ?
Alors, évidemment, il y a un signe d'ouverture. Les deux plus grandes puissances du monde négocient. Mais en réalité, cette négociation ne nous dit pas du tout si on va revenir à la situation d'avant. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que loin des débats sur un potentiel monde plus multipolaire, eh bien, les deux plus grandes puissances affirment là leur centralité. Mais à nouveau, les tensions sont profondes et donc, pour l'instant, c'est juste des preuves premières discussions et aucun résultat concret n'est attendu à l'issue de ce week-end.
Et pour bien comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que chaque parti voudrait obtenir? Quelles sont les conditions de chacun qui sont sur la table?
Alors, les conditions, c'est un peu flou parce qu'on est à la fois entre des effets d'annonce. La Chine dit, par exemple, les États-Unis doivent retirer leurs droits de douane et c'est uniquement ensuite qu'on négocie. Les États-Unis disent, non, on va négocier à partir des droits de douane augmentés que nous venons de fixer. Donc, il y a déjà des démarches de négociation un peu différentes de chaque côté. Et puis, Trump a annoncé sur son réseau social, effectivement, qu'une baisse à 80%, ce serait envisageable. Mm-hmm. Mais à nouveau, c'est à prendre avec des pincettes, puisque c'est surtout de la stratégie de négociation à ce stade.
Et 80%, justement, comme évoqué par le président Trump pour la Chine, ce serait acceptable, selon vous, pour Pékin ?
Il faut bien voir que ce serait significativement plus élevé que ce que les États-Unis imposent aux autres pays du monde. Donc, de ce point de vue-là, Pékin peut s'en satisfaire et on pourrait presque penser que si les États-Unis maintiennent les 80%, par exemple, c'est une invitation à contourner les droits de douane américains en utilisant des pays tiers, des pays de transit, ce que la Chine fait déjà assez largement à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y aurait, selon vous, une sorte de liste sur la table de produits précis qui seraient exemptés de taxes, par exemple, côté américain, que la Chine achète plus de produits gaz ou soja, par exemple, venus des États-Unis ?
C'est clairement ce que l'administration Trump vise vis-à-vis d'une série de pays tiers. Mais en même temps, il y a quand même un enjeu aussi de politique intérieure très important pour le président Trump. Il s'est montré particulièrement virulent à l'égard de la Chine. Mm-hmm. Donc, il ne peut pas facilement faire marche arrière. Alors, une manière de faire perdre un peu la population américaine de la compréhension des enjeux, ce serait effectivement de maintenir un droit de douane très élevé tout en y ajoutant des exceptions ou des clauses particulières. Mais il y a quand même un double enjeu en quelque sorte. Il y a d'un côté le commerce avec la Chine et de l'autre côté, pour Trump, il y a aussi sa population, son électorat qui attend une position ferme.
Oui, c'est ça. Ce serait une manière, ce que vous disiez, des exemptions sur certains produits. Ce serait moins spectaculaire qu'une baisse globale du taux, mais avec un effet équivalent et ce qui permettrait aux deux puissances de garder la face en quelque sorte.
Ce serait une possibilité. Ensuite, il convient de bien garder à l'esprit que un des enjeux essentiels de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, c'est la supériorité technologique. Et donc, c'est précisément dans ce domaine, les semi-conducteurs, par exemple, que les États-Unis vont se montrer particulièrement durs à l'égard de la Chine. Donc, il faut aussi regarder les secteurs dans lesquels les États-Unis ne lâchent rien du tout. Il ne suffit pas de regarder où est-ce qu'il y aurait d'éventuelles exemptions, il faut regarder les deux aspects.
Vous le disiez, c'est une première étape. Vous pensez que ça va prendre du temps, ces négociations ?
C'est même une certitude. On pourrait même prendre l'exemple de l'accord qui a été trouvé récemment entre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est une première négociation qui en appelle à d'autres. Donc les discussions ne vont pas s'arrêter là. Donc tout ça suggère que le commerce mondial à l'heure actuelle est loin d'être terminé. Et même si on va vers des solutions négociées, ça va prendre beaucoup de temps. Et en attendant, évidemment, c'est de l'incertitude supplémentaire pour les entreprises.
Merci beaucoup à vous, Benjamin Burbaumer, auteur du livre « Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». C'est aux éditions La Découverte. On en parlait dans le journal. Le cessez-le-feu tient globalement entre l'Inde et le Pakistan après la poussée de fièvre cette semaine entre les deux voisins. L'opération indienne sur le sol pakistanais dans la nuit du 6 au 7 mai contre des camps terroristes selon New Delhi. Islamabad a répondu et affirme avoir abattu 5 avions de combat indiens, dont peut-être un Rafale de fabrication française. Le sort des appareils indiens est encore incertain. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Chine, justement, observe de très près ces affrontements, puisque son industrie fournit les forces pakistanaises. Ligne de défense avec Franck Alexandre.
C'est un test grandeur nature pour l'industrie de défense chinoise qui équipe le Pakistan à plus de 80%. Islamabad affirme avoir abattu 3 Rafales, un Sukhoi 30 et un MiG-29. L'utilisation possible de missiles RR chinois PL-15 embarqués sous les ailes d'avions chinois J-10C est évoquée. Un Rafale aurait possiblement été détruit. Sans certitude, c'est donc l'occasion de jauger les systèmes d'armes, mais aussi la préparation opérationnelle des pilotes, et dans le cadre de l'opération aérienne Sindoor, l'Indian Air Force semble avoir été un peu légère, pointe l'expert aéronautique Xavier Titelman.
Les Indiens l'ont très clairement dit, on n'a pas attaqué, on s'en est pas pris aux infrastructures militaires pakistanaises. Ça veut dire que s'il y avait par exemple de la défense aérienne pakistanaise, ils ne l'ont pas détruit, alors que normalement c'est un préalable quand on entre dans une situation de guerre et de bombardement. Et à partir du moment où vous êtes dans une zone dans laquelle vous êtes à portée de missiles, bah logiquement, malgré des très bons systèmes d'autoprotection, vous n'êtes pas infaillible.
L'Indian Air Force, forte sur le papier de 1500 appareils, reste essentiellement dotée d'avions russes vieillissants. Elle a aussi probablement péché par excès de confiance, souligne Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS.
Alors la réponse officielle des Indiens, c'est nous ne voulions pas entrer dans une logique d'escalade. N'empêche que ça révèle aussi une sous-estimation des capacités militaires qui est préoccupante. Mais clairement, l'armée de l'air indienne n'est pas capable de faire face à un conflit de très grande ampleur, ce qui n'est pourtant pas le cas aujourd'hui, et a fortiori si la Chine devait mobiliser sur sa frontière en immobilisant une partie des armes indiennes, que ce soit l'armée de terre bien entendu, mais aussi l'armée de l'air.
Depuis 1947, l'Inde et le Pakistan se disputent la région du Cachemire, les escalades sont fréquentes et toujours potentiellement dangereuse, car ce sont deux puissances dotées de l'arme nucléaire. Reste que le pire n'est jamais certain, d'autant que le troisième acteur régional, la Chine, n'a aucun intérêt à un affrontement à ses frontières.
Géopolitiquement, la Chine est derrière le Pakistan et elle ne peut pas laisser un affaiblissement du Pakistan se produire au-delà d'un certain niveau. Par ailleurs, la Chine a aussi des intérêts en Inde. Il y a des intérêts économiques énormes. Et enfin, la frontière entre la Chine et l'Inde est instable. Il y a eu des affrontements ces dernières années. Mais depuis à peu près un an, il y a un processus de rapprochement qui est très significatif, que la Chine ne peut pas négliger au moment où se prépare une grande confrontation, peut-être avec les États-Unis. La Chine a beaucoup à perdre dans une conflagration qui serait juste à son voisinage.
Samedi 10 mai, après une intervention ferme de la Chine, Islamabad a annoncé que les deux parties ont accepté un cessez-le-feu avec effet immédiat.
Chronique Ligne de Défense, comme chaque dimanche avec Franck Alexandre, RFI 21h22 à Séoul. L'intelligence artificielle s'installe dans les écoles en Corée du Sud. C'est en place depuis le mois de mars dans un tiers environ des primaires et collèges du pays qui disposent donc de manuels scolaires avec une IA intégrée. Une innovation censée faciliter le travail des professeurs, améliorer les résultats scolaires, mais qui ne fait pas l'unanimité. Reportage à Séoul, Célio Fioretti.
Après la sonnerie, la vingtaine d'élèves de cette classe de CM1 de la ville de Daegu rejoint sa salle de classe pour une heure de cours d'anglais. Pour pratiquer la langue de Shakespeare, pas de dialogue avec la professeure. Chaque élève sort ses écouteurs et parle à son écran.
On va pratiquer les expressions en utilisant l'IA, d'accord ?
À l'intérieur de la tablette, une intelligence artificielle qui discute avec l'enfant et analyse sa prononciation avant d'envoyer les résultats à l'enseignante. Désormais, en Corée du Sud, les cours de mathématiques, d'anglais et d'informatique de la primaire au collège sont assistés d'une intelligence artificielle qui évalue en temps réel les performances des élèves. Pour Lim Songa, professeur de mathématiques, cette innovation facilite le travail des enseignants.
Avant, je devais imprimer des documents et passer beaucoup de temps à corriger les élèves. Maintenant, l'intelligence artificielle corrige les exercices et gère l'évaluation. Il ne conçoit pas le cours à ma place. Il rend juste certaines choses plus pratiques et permet de suivre les résultats des élèves en temps réel.
En classe, les résultats des élèves sont affichés et comparés en temps réel sur le tableau. Une course à la performance dans un système scolaire déjà connu pour être extrêmement compétitif. Une approche de la pédagogie loin d'être partagée par la majorité du personnel éducatif. Kwon Jong-min est chercheuse à l'Université nationale de l'éducation à Séoul. Elle décrit un programme qui se fait au détriment des élèves.
Cela passe à côté de toutes les bases de la philosophie de l'éducation. Ce programme est pensé uniquement pour les résultats. Le problème, c'est que notre système éducatif doit permettre de former des étudiants à la pensée créative, à la pensée critique. Cette intelligence artificielle fait l'opposé.
Pour l'heure, seul un tiers des établissements ont choisi d'implémenter ce système. Le ministère de l'Éducation sud-coréen devra convaincre les professeurs réticents de transitionner vers l'intelligence artificielle au sein des classes. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
Et les reportages de nos correspondants à travers le monde à retrouver sur RFI.fr. Ça approche, dernier préparatif à Cannes, dans le sud de la France, avant le coup d'envoi du grand rendez-vous cinéma, le festival à partir de mardi. Et parmi les habitués de la croisette, Wes Anderson en lice pour la Palme d'Or avec son dernier film, ce réalisateur américain si singulier avec un univers bien à lui, à l'honneur en ce moment avec une grande expo à la Cinémathèque de Paris, Sophie Torlotin.
Attention, c'est parti.
Wes Anderson a tout gardé, ou presque, de ses carnets préparatoires, objets, costumes, éléments de décor, depuis son premier long-métrage Bottle Rocket en 1994.
On sait à quel point son cinéma est très très pensé en amont, c'est le contraire du cinéaste d'improvisation.
Mathieu Orléans, le commissaire de l'exposition.
Ça on le voit très bien avec les storyboards, et on en a un dès Bottle Rocket, son premier film, donc un storyboard qui montre que finalement tout le film était dans sa tête avant même qu'il arrive sur un plateau, et ça sera d'autant plus le cas de films où il doit recréer tous les décors, parce que comme le Grand Budapest, ça se passe dans l'Europe centrale des années 30, donc on est obligé de tout anticiper.
Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy ?
Qui ne le souhaite pas ? Au Grand Budapest, monsieur.
The Grand Budapest Hotel, un film de 2014, est un bon exemple du style Wes Anderson. Une troupe éblouissante d'acteurs comme William Dafoe, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Jason Schwartzman ou Adrien Brody. Des histoires qui s'enchassent, une atmosphère loufoque, une multitude de détails. Un univers comme une maison de poupées à l'image de la maquette de l'hôtel présentée dans l'exposition.
Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas recréer un hôtel à cette envergure. Ils ont transformé un centre commercial désaffecté en Allemagne pour en faire l'intérieur, mais il n'y avait pas de quoi faire l'extérieur, et finalement ils ont assumé l'artifice de faire une maquette qui servirait d'extérieur et qu'on voit ici. Bizarrement, ils ne tournent pas beaucoup en studio, et le reste du temps ils préfèrent aller sur le terrain en Inde, dans une île à Rhode Island, qui va recréer un monde, mais à partir de l'existence. C'est un peu tous les paradoxes de Wes Anderson. Plutôt que de faire un cinéma complètement de studio et complètement artificiel, il crée l'artifice à l'intérieur du monde réel. Et donc c'est toujours cette ambiguïté entre comédie, mélancolie, entre intérieur, extérieur, et là aussi entre vrai et faux, il y a toujours les deux qui existent.
Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou. Un groupe de spécialistes en plongée sous-marine.
Cette exposition permet donc de pénétrer film par film dans la fabrique d'une œuvre foisonnante, Mathieu Orléans.
C'est plus que jamais l'occasion de voir non seulement des objets cultes, je pensais pas à la tenue de Zizou dans La Vie aquatique, ça, les gens l'ont repéré, les gens s'en souviennent.
Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain.
Mais aussi beaucoup de choses qui passent presque inaperçues dans le plan, qui vont très vite. Et l'exposition, c'est comme un arrêt sur image sur tous ces petits trésors fabriqués par des gens qui ont mis beaucoup d'eux.
Ce qui est encore le cas avec le nouveau long métrage de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, qui sortira en salle juste après le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes à suivre, bien sûr, sur RFI avec nos envoyés spéciaux. Quant à l'expo Wes Anderson à la Cinémathèque de Paris, c'est jusqu'au 27 juillet prochain. Restez avec nous sur RFI à suivre dans une minute. Afrique Midi, toute l'actu africaine avec Mathis Slimano. À tout de suite.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la radio du monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.
Le journal en français facile
Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale.
Je suis Jonathan, je viens de Toronto. J'écoute la journal en français facile parce que je peux apprendre un peu plus sur le monde de la point de vue de la France.
Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.